Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business, la librairie de l'écho, Emmanuel Lechypre.
Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteur, ils seront nos invités dans la première partie de l'émission. Et puis nous retrouverons ensuite nos critiques attitrés, Jean-Marc Daniel, Christian Chavagneux, chacun avec des choix bien tranchés. Vous verrez, et puis nous retrouverons nos chroniqueurs, bien sûr, Benahouda Abdelhaim, notre globetrotter, Alexandra Paget, notre bibliothécaire du jour, n'oubliez pas notre compte Twitter, notre page Facebook. On démarre tout de suite avec nos auteurs. Pour relever les défis considérables qui sont devant elle, au premier rang desquels le bouleversement climatique, bien sûr, l'humanité peut-elle convoquer Dieu? Quelle réponse l'Église propose-t-elle pour traiter les déséquilibres économiques, sociaux, financiers qui fragilisent nos sociétés? Peut-on dire que l'Église est plutôt libérale ou plutôt étatiste, qu'elle est de gauche ou de droite? Eh bien, réponse avec nos deux invités. Frédéric Lobé, bonjour.
Bonjour.
Frédéric, vous êtes professeur émérite de finance à l'Université de Lille, ancien président de l'Association française de finance, et vous publiez Crédit et Credo aux éditions Les Belles Lettres. Et puis nous recevons aussi l'économiste Gaël Giraud, ancien directeur des études économiques de l'Agence française de développement, directeur du programme Justice environnementale de l'Université Georgetown à Washington. Il publie Composer un monde en commun au seuil. Nous l'avons rencontré lors de son dernier passage à Paris. On l'écoute tout de suite. Bonjour Gaël Giraud. Pour commencer peut-être, comment est-ce que vous caractérisez l'époque actuelle? Quel diagnostic vous faites de l'état du monde? Et quelle est l'urgence aujourd'hui, à votre avis?
Alors de mon point de vue, c'est un peu le point de départ de ce livre, on est à la croisée des chemins dans tous les pays. Et on est tous confrontés à peu près à la même problématique, qui est de transiter d'une économie essentiellement construite sur les énergies fossiles, charbon, pétrole, gaz, hérité de la révolution industrielle, vers des sociétés à énergie renouvelable. Mais au fond, il y a deux grands modèles de sociétés compatibles, malheureusement ou heureusement, avec cette transition, cette transformation dans notre rapport à l'énergie et à la biodiversité et au monde. Il y en a un qui est celui auquel pensent tous les militants écologistes, qui est évidemment celui que je préfère, qui est une société très décentralisée dans laquelle tout le monde aurait les moyens de produire sa propre électricité chez soi, par exemple avec son panneau solaire ou avec une éolienne dans le jardin. Et la capacité de produire soi-même son énergie va avec, évidemment, la capacité de décider de son sort politiquement, et donc une décentralisation du pouvoir. Donc ça, ça veut dire une démocratie très participative et des communs un peu partout, on y reviendra. Il y a un autre modèle de société, malheureusement, qui est parfaitement compatible avec une société à énergie renouvelable, qui est exactement le contraire. C'est-à-dire un État très centralisé, très autoritaire, éventuellement complètement antidémocratique, en alliance avec le secteur privé. Pourquoi ? Parce que les infrastructures liées aux énergies renouvelables sont beaucoup plus capitalistiques que les infrastructures liées aux énergies fossiles, qui est un point, en fait, qui est passé inaperçu de beaucoup de militants écologistes. En gros, si vous voulez, la part du CAPEX, donc du coût du capital, dans le coût de production du kilowattheure avec des énergies renouvelables, elle tourne autour de 40-50%, alors que pour les énergies fossiles, elle est entre 10 et 15%. Et donc, au fond, d'un point de vue économique, une société d'énergie renouvelable peut être beaucoup plus capitalistique qu'une société à énergie fossile. Ce qui veut dire que le capital a un mot colossal à dire. Et donc, au fond, on est tous, en France, en Allemagne, en Italie, aux États-Unis, en Chine, à la croisée des chemins, en train d'hésiter sur le modèle. L'Allemagne, autour des années 2010, avait pris la première option, et puis a reprivatisé toutes ses coopératives d'énergie.
Alors, vous dites on est à la croisée des chemins, mais en même temps, sur le modèle plutôt qui a choisi la voie de la privatisation à l'extrême, etc., en même temps, vous en faites un bilan qui est plutôt assez sombre sur les 30 dernières années.
Ah oui, alors la privatisation, malheureusement, est en grande partie l'une des responsables de la crise écologique dans laquelle nous nous trouvons, pour la simple raison que si vous considérez que le monde entier peut être transformé en une marchandise, ça veut dire que vous pouvez le détruire. Parce que le droit de propriété, si vous voulez, au sens du droit romain d'abord, et puis ensuite du droit canonique, qui est une réécriture du droit romain au XIe, XIIe siècle, le droit de propriété, c'est un droit d'usage, usus, un droit de revendre et de tirer un fruit de ma possession, le fructus, puis c'est un droit de détruire, abusus. Donc si je suis le propriétaire plénier d'une ressource, j'ai le droit de la détruire. De la même manière aux États-Unis.
Oui, sauf que Gaël Giraud, les libéraux philosophiques vous diront que, au contraire, la meilleure façon de protéger une ressource, c'est qu'elle soit privatisée, parce que si vous en êtes le propriétaire et qu'elle vous rapporte de l'argent, la logique, c'est qu'elle vous en rapporte le plus longtemps possible. Par exemple, celui qui est propriétaire, je sais pas, d'une source, par exemple, qui produit de l'eau minérale, il va tout faire pour que sa source reste pure, de bonne qualité.
Oui. Alors, l'expérience montre que c'est exactement le contraire, malheureusement. Ça, c'est la grande thèse, si vous voulez, de Gareth Hardin sur la tragédie des communs, hein, qui prétend que à partir du moment où vous gérez en commun une ressource, plus personne ne se sent responsable de la ressource et on la néglige. L'expérience qu'on en a faite, nous, à l'Agence française de développement, où j'ai travaillé comme chef économiste, c'est que, par exemple, pour l'eau, c'est exactement le contraire. Si vous avez une gestion de l'eau par une petite communauté, avec surtout des femmes qui sont en première loge, alors vous gérez très très bien l'eau. Si au contraire vous la privatisez ou si vous la faites gérer par l'État, ça ne marche pas du tout. Exemple caractéristique, c'est ce qui s'est passé à La Paz en Bolivie. Été 2016, La Paz, qui est la capitale de la Bolivie, se trouve, fait l'expérience dramatique du day zero, c'est-à-dire le jour où il n'y a plus d'eau au robinet. Et les bourgeois du centre-ville n'ont plus d'eau. Et vous savez qu'on ne peut pas vivre sans eau. On peut mettre des cols roulés, mais on ne peut pas vivre sans eau. Alors que les pauvres dans les favelas des bidonvilles de La Paz, qui avaient géré l'eau en commun, avec des communautés de femmes gérant l'eau, ont continué à avoir de l'eau pendant tout l'été.
Alors, au cœur de votre réflexion, il y a vraiment cette idée de comment réinventer les règles de notre rapport au monde. Comment, finalement, trouver un mode de gestion plus démocratique des ressources. Et là, au cœur de votre réflexion, il y a justement ces fameux communs. Alors, expliquez-nous ce que sont ces fameux communs.
Alors, le point de départ, si vous voulez, c'est le constat qu'on a commencé de refaire ensemble, hein, qui est que la privatisation absolutisée est un problème. Donc, pour le redire, hein, aux États-Unis, si je suis propriétaire d'un terrain, je suis propriétaire du sous-sol. Et donc, si dans mon jardin, j'ai du pétrole, personne n'a le droit de m'interdire d'extraire ce pétrole et de continuer de détruire le climat. Donc la privatisation absolutisée est un problème. Non pas la propriété privée comme telle, mais son absolutisation. La propriété publique, et disons l'absolutisation de l'État, est également un problème. Non, la question c'est comment est-ce qu'aujourd'hui on trouve des règles pour limiter la souveraineté d'un État et lui dire tu fais bien ce que tu veux puisque tu es souverain, sauf sur un certain nombre de points. Regardez ce qui s'est passé avec la santé et la pandémie. L'OMS n'a pas été écoutée. Et donc les institutions internationales que nous avons construites après 1945 pour gérer nos grands problèmes internationaux ne fonctionnent plus aujourd'hui. Les Nations Unies, ça ne marche plus. Le Conseil de sécurité des Nations Unies n'a rien dit pendant la pandémie, qui était un problème global auquel tout le monde s'est affronté. Donc ça ne veut pas dire que les Nations Unies ne servent à rien. Ça veut dire que le cadre dans lequel nous avons pensé le cosmopolitisme après 1945 n'est plus suffisant. Et qu'il faut inventer d'autres types d'institutions, des institutions hybrides, ni complètement privées, ni complètement publiques, mais dans lesquelles, par exemple, la société civile a droit de parole, pour traiter un certain nombre de ressources comme des communs, et notamment la santé, la culture, le climat, évidemment, la biodiversité, les ressources halieutiques dans nos océans, etc. Oui. Alors, les communs, c'est ça. Donc, si vous voulez, on a vu trois grandes catégories, le privé, le public, les communs. Et les communs, c'est quoi? C'est la gestion démocratique par une communauté d'une ressource, qui peut être une ressource matérielle, hein, donc ça peut être la faune halieutique des poissons dans nos océans, ça peut être une forêt, ça peut être un écosystème particulièrement florissant, et puis ça peut être une ressource immatérielle, hein, ça peut être Wikipédia, etc.
Alors, pour résoudre tous ces problèmes, on se dit quand même, mais que vient faire la religion là-dedans? Et en fait, il y a deux dimensions moi, qui m'intéressent et sur lesquelles je voudrais vous entendre. La première, c'est évidemment la dimension théologique et spirituelle. C'est-à-dire qu'à un moment, l'homme s'est cru complètement détaché de son environnement. Et moi, ma question, c'était, mais est-ce que la religion n'a pas une part de responsabilité dans ce sentiment finalement de toute puissance et de domination de l'homme sur son environnement ?
Alors c'est vrai que c'est un procès qui est fait en particulier au christianisme, mais aussi à toutes les religions abrahamiques en fait, hein, puisque c'est un procès qui remonte au livre de la Genèse, le premier livre de la Bible, chapitre 1, verset 28, où on entend Dieu dire à Adam et Ève, croissez, soyez féconds et dominez la terre. Et la question c'est que signifie dominer la terre ? Donc vous avez un grand historien américain, Lin White, protestant, dans les années 60, qui dit, ben voilà, En fait, la racine de tous nos maux se trouve là. Les chrétiens croient, et toutes les religions abrahamiques, en fait, croient qu'elles peuvent. Les trois religions qui héritent de l'Ancien Testament et de la Torah, donc le judaïsme, l'islam et le christianisme, croient qu'ils peuvent dominer la terre et donc la détruire. Et donc ça, c'est un procès qui est fait aux, disons, religions bibliques, hein, depuis très longtemps. Donc ce que j'essaie de montrer dans ce livre, c'est que, à la fois, ce procès n'est pas faux, et malheureusement, on est obligé de constater qu'il y a un certain nombre, à la fois de chrétiens, de musulmans et de juifs, qui contribuent à la destruction de la planète. Hélas. Mais que, en tout cas, c'est la thèse que j'essaie de défendre, le christianisme propose des ressources spirituelles pour nous aider à avoir l'inventivité et la créativité nécessaires pour construire les institutions dont nous avons besoin pour gérer nos communs. Et l'exemple, si vous voulez, paradigmatique pour moi, c'est DNDI, Drugs for Neglected Disease Initiative, qui est une plateforme qui a été créée à Genève par des médecins français il y a une quinzaine d'années, qui propose des thérapies contre des maladies négligées par le secteur privé, parce que les gens qui en souffrent sont trop pauvres, et donc c'est inintéressant pour faire du business. Et par exemple, l'hépatite C en Égypte. Et donc DNDI, aujourd'hui, distribue via des ONG une thérapie contre l'hépatite C pour $300, alors que cette thérapie vaut 2000, 3000 euros en Europe. Alors comment est-ce que DNDI fait ce miracle? Eh bien, en mettant autour de la table des institutions et des partenaires qui d'ordinaire ne se parlent pas, Big Pharma, des États souverains, et des ONG représentants de la société civile. Et c'est cette discussion entre partenaires qui acceptent de collaborer entre eux qui permet de produire ces thérapies là où le Big Pharma ne le fera jamais tout seul, les États ne peuvent pas le faire tout seul et les ONG sont dépourvues pour le faire tout seul. Et donc vous voyez, ça c'est un embryon d'institution qui permet de gérer la santé comme un commun. Et on a vu avec la pandémie que la santé d'une famille à Wuhan vous concerne, me concerne, que donc en fait il y a une interdépendance généralisée au niveau de la santé, mais c'est vrai pour tout. On a une interdépendance généralisée sur l'eau. Nous buvons aujourd'hui de l'eau qui a coulé dans les rivières de l'Empire romain il y a 2000 ans. C'est la même eau. Voilà. Et donc nous sommes en relation et en interdépendance avec tous les humains qui nous ont précédés, tous ceux qui nous succéderont et tous ceux qui vivent, qui sont nos contemporains.
Est-ce qu'on a là les clés de la réconciliation, finalement, des antagonismes qu'on voit sous nos yeux tous les jours, qui est finalement quelque part cette contradiction entre la nécessité ou bien les urgences des luttes sociales et à long terme le réchauffement climatique, ou en gros, est-ce que c'est le moyen de réconcilier, pour le dire plus simplement, la fin du monde et la fin du mois? Est-ce qu'il y a les clés? Est-ce que vous avez des clés pour effectivement essayer de faire converger ces deux objectifs qui paraissent bien souvent contradictoires?
Oui, absolument. Je crois vraiment que penser, disons, le politique comme étant la mise en place d'un droit qui est de l'ordre du public par l'État pour protéger les communs que la société civile va inventer, ça c'est une manière de réconcilier la problématique de la fin du mois et la problématique de la fin du monde. Parce que les communs, c'est une manière de partager des ressources, c'est beaucoup plus économe, ça crée du travail pour tout le monde et ça permet à tout le monde d'avoir un sens dans sa vie. L'un des grands drames de nos sociétés aujourd'hui, je crois, c'est ce qu'avait montré David Graeber, vous savez, l'anthropologue new-yorkais qui vivait...
qu'on avait reçu dans la librairie.
Hein, c'est que 30% de nos boulots sont des bullshit jobs qui nous rendent malades. C'est des boulots qui n'ont pas de sens. Si on met en commun, qu'on partage pour créer une société qui permet de relever le défi de la transition écologique, alors ça a du sens. Vous voyez ? Et là, on conjugue à la fois la question sociale de la fin du mois avec la question écologique.
Il y a eu des expériences déjà de ce type, je ne sais pas, les kolkhozes, les kibboutz.
Oui,
est-ce que c'est un monde qui s'approche de ça ou pas ?
Oui, alors ça c'est une version si vous voulez, mais par exemple quelque chose à mon avis qui pour l'Europe est beaucoup plus pertinent, c'est les communautés énergétiques qui se construisent en Italie aujourd'hui. Certains Italiens ont compris bien avant le démarrage de la guerre en Ukraine que l'énergie ça allait être un problème, se sont cotisés ensemble pour acheter des panneaux solaires, des éoliennes, etc. Et aujourd'hui partagent en communauté le coût de l'énergie. Et aujourd'hui, ils affrontent l'inflation sans aucun problème. Voilà. Alors ce qu'ils appellent eux les comunità energetica, ça c'est une manière de gérer l'énergie comme un commun, et ça c'est l'avenir. Ils ont fait la même chose avec l'eau, et il y a une grande bagarre à Naples, dont vous avez sûrement entendu parler, en 2011. La Commission européenne voulait privatiser l'eau de Naples, les Napolitains sont sortis dans la rue, on dit certainement pas, l'eau est un commun, un bien commun pour nous. Et il y a eu un grand juriste italien, Stefano Rodotà, qui a proposé d'inscrire dans la constitution italienne l'eau comme bene comune, comme bien commun. Alors malheureusement il a échoué, puis il est mort aujourd'hui, mais je crois que c'est ça l'avenir pour nous. C'est-à-dire comprendre que la propriété privée a sa place, les biens publics ont leur place, Mais il y a un espace qu'il faut ouvrir pour les biens communs, les monnaies locales, ces communautés énergétiques en Italie, les communautés de gestion de l'eau, les banques de récolte, par exemple en Inde, vous avez des femmes qui se sont organisées pour avoir des banques qui permettent de garder les semences que un certain nombre, Monsanto et autres, veulent absolument détruire pour les remplacer par les leurs. Voilà. Et donc, à chaque fois, là, c'est la même chose, hein, ou Wikipédia, pensez à Wikipédia. À chaque fois, on met en œuvre des règles de manière qu'une communauté puisse partager, que l'intelligence collective puisse faire advenir le meilleur, et c'est ça l'invention démocratique pour nous.
Merci beaucoup Gaël Giraud, je rappelle votre livre Composer un monde en commun, c'est aux éditions du Seuil. Frédéric Lobé, on poursuit notre discussion autour de la religion, des biens communs et de la façon dont la religion catholique peut aider finalement à apporter des réponses à tous nos problèmes. Quand même, l'étonnement, Frédéric Lobé, crédit, credo, y a-t-il univers plus éloigné que ceux de la finance et de la religion catholique ?
Oui, effectivement, la distance semble immense entre d'un côté le sacré et de l'autre le profane,
ouais.
Voire ce qu'on pourrait réduire au vulgaire si l'on s'en tient au scandale, etc. Pourtant, effectivement, l'Église a quelque chose à dire sur les questions économiques et financières pour différentes raisons. Une raison théologique, c'est-à-dire qu'elle affirme que l'homme est créé à l'image de Dieu, ceci induit une exigence éthique qui ne souffre aucune exception et qui concerne aussi les questions économiques et financières. Et puis, il y a des questions historiques, où il y a des motifs historiques. Le mur de Berlin est tombé en 1989.
Ouais.
Le capitalisme est omniprésent,
ouais,
sans force de rappel. Et il est urgent que les plus hautes autorités morales expriment une parole, éventuellement critique, sur les questions économiques et financières.
Alors, quand même, on ne peut qu'être étonné, finalement, de la discrétion au fil de l'histoire de l'Église vis-à-vis des questions d'argent, des questions financières.
Alors, en fait, cette discrétion, elle est récente. Elle est récente. Pendant tout le Moyen-Âge, les débats sur les questions financières ont été extrêmement importants.
Ouais.
À l'époque, la finance se réduisait à l'opération de crédit.
Oui.
Mais la question de l'usure, comme on l'appelle, a mobilisé tous les théologiens, elle a mobilisé les philosophes, depuis Aristote, les théologiens ensuite, pendant très très longtemps. Et le XIIIe siècle, par exemple, fut extrêmement fécond pour la pensée théologique sur les questions financières.
Quelle est la position aujourd'hui de l'Église catholique par rapport au capitalisme? Quelles sont les dernières avancées de la réflexion de l'Église en matière économique et sociale?
Je vais vous prendre un exemple pour que ça parle à nos téléspectateurs. Il y a une question centrale aujourd'hui qui est celui du financement de la transition écologique.
Ouais.
Les chiffres sont sortis, 34 milliards pour par an, hein, pour le patronat, 40 milliards d'un autre côté. Donc, il faut trouver cette masse d'argent chaque année. Alors, sur ces questions-là, ce que dit l'Église, c'est que la finalité d'une civilisation, c'est le bien commun. Et que le bien commun implique de protéger ce qu'on appelle, ou ce que le pape François appelle, la maison commune.
Ouais.
La maison commune, c'est notre monde, c'est la qualité de l'eau, la qualité de l'air, etc. Alors, à partir de là, comment faire ? Comment faire ? Soit, et là je reprends ma casquette d'économiste, soit vous levez des impôts, ça c'est une possibilité. Ouais. À ce moment-là, il faut veiller finalement à protéger les ménages les plus modestes. C'est ce qu'on appelle l'option préférentielle pour les pauvres, qui est un principe dominant dans l'Église catholique. Soit, par exemple, on utilise des systèmes incitatifs comme les fameuses taxes carbone, qui vont renchérir finalement le coût des énergies fossiles et vont modifier en profondeur les comportements des ménages et des agents économiques en général. Alors, la difficulté pour ceci, c'est que, à nouveau, ce sont probablement les ménages les plus modestes qui vont souffrir de ces taxes, et donc il faut profiter de la levée de ces taxes pour, compenser les ménages les plus modestes en leur versant, par exemple, une soulte. Donc vous voyez, on peut dialoguer en fait entre la pensée sociale catholique et puis les questions économiques et financières.
La pensée sociale catholique, aujourd'hui, est-ce que on peut dire, alors ma question va être stupide, vous allez la trouver bête, mais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la pensée sociale catholique, elle est plutôt de gauche, plutôt de droite, plutôt étatiste, plutôt libérale, plutôt individualiste, plutôt collectiviste? Comment est-ce que ça a un sens d'ailleurs de réfléchir comme ça?
Alors, elle est ni de droite ni de gauche. Ouais. C'est une sorte de GPS. La pensée sociale catholique est structurée autour d'un certain nombre de principes. J'ai cité le bien commun. Ouais. Il y a la destination universelle des biens, qui vient du fait que c'est le récit de la Genèse. Dieu crée le monde, crée l'homme à son image, et il donne tout cela à tous les hommes. Destination universelle des biens. Principe de subsidiarité, qui est inscrit dans le droit canon. Principe de solidarité. Il s'agit de mobiliser tous ces principes ensemble pour discerner finalement ce qui est bien pour le destin de l'humanité. Et donc, l'Église s'est toujours refusée à faire des choix tranchés en matière politique. Alors maintenant, les pontifs, ils sont insérés dans un contexte. On voit bien que le pape François est un pape sud-américain. Il a probablement été influencé par ce qu'on appelle les théologies de la libération. Ouais. C'était pas le cas du cardinal Ratzinger quand il fut élu. Donc, chaque pontife, finalement, est inséré dans un contexte. Il a sa propre histoire, il a ses propres priorités, et quand on regarde tout ça dans la durée, par exemple, si on prend toutes les encycliques depuis 1891, la fameuse encyclique de Léon XIII, c'est vrai qu'on voit que de temps en temps, on s'attire un peu plus à droite, un peu plus à gauche, mais le sillon qui est tracé me semble finalement très équilibré.
On a l'impression, alors là je vais le dire encore peut-être d'une façon un peu maladroite, quand on compare la religion catholique avec toutes les autres religions, on se dit finalement la religion catholique c'est celle qui est la moins à l'aise avec l'économie, c'est celle qui est la moins à l'aise avec le profit, c'est celle qui est la moins pro-business, s'il fallait parler de façon moderne. Il y a tout un tas de travaux qui ont été faits par rapport à la religion musulmane, à la religion juive, au bouddhisme, etc. On se dit finalement la religion catholique c'est presque la plus handicapante entre guillemets pour le développement économique d'un pays.
Alors, c'est vrai qu'elle a tardé, la religion catholique, à donner une parole forte et critique sur les questions financières. Et donc, le texte publié en 2018, qui s'appelle « Sur les questions économiques et financières », était attendu, et il était absolument nécessaire. Alors, pourquoi le Vatican a-t-il été si lent, finalement, à prendre des positions sur les questions financières? Je crois qu'il peut y avoir deux hypothèses aux historiens de les départager. Première hypothèse, la pensée sociale catholique peut avoir été instrumentalisée par certains pontifes qui, à un moment donné, avaient une priorité. Léon XIII, 1891, son combat, c'était le marxisme, qui contestait la propriété privée. Et donc, c'est vrai qu'il a été très très tranché dans sa défense, finalement, de la propriété privée. Quitte à oublier que la propriété privée est subordonnée à la destination universelle des biens. Si je prends Jean-Paul II, son combat, c'est faire tomber le mur de Berlin. Et donc, c'est vrai qu'il était difficile pour lui de critiquer le capitalisme en même temps qu'il participait à la chute du mur de Berlin. Donc ça, c'est une première hypothèse. Puis il y a une deuxième hypothèse sur le silence de l'Église sur les questions financières, c'est peut-être le mal-être du Vatican sur ses propres finances. Ouais. Sur ses propres finances. N'oublions pas que le Vatican a été créé à peu près en même temps que le Vatican, l'État du Vatican, le Vatican était en tant qu'État, date de 1929, les accords du Latran. Et l'État italien, sa genèse, c'est 1860-1870. Les accords du Latran font que le Vatican reçoit une soulte, 750 millions de livres, plus un paquet de titres. Et donc, effectivement, le pape se retrouve avec cette somme à gérer. Il confie ça à une instance, mais c'est pas sa priorité. La priorité d'un pape ou d'un pontife, c'est d'évangéliser. Et donc, ajouter à cela qu'on est en Italie, qu'il y a une mafia dans le sud de l'Italie qui est très très présente, qu'en plus de ça, les accords du Latran donnent au pape et au Vatican un statut fiscal privilégié, et vous avez tous les ingrédients, finalement, pour que les affaires financières du Vatican ne soient plus très propres. Et c'est Benoît XVI qui va remettre de l'ordre dans tout cela.
Frédéric Lobet, je vous pose la même question qu'à Gaël Giraud. Qu'est-ce que l'Église catholique peut apporter aujourd'hui à la résolution de ce terrible dilemme qu'on raccourcit à fin du mois, fin du monde? C'est-à-dire, comment on fait pour réconcilier les contraintes de la vie à court terme avec la nécessité de sauvegarder la planète à long terme? Qu'est-ce que l'Église a apporté sur ce sujet?
Je pense que son discours sur la protection des plus démunis doit être entendu. La transition écologique va être extraordinairement coûteuse. Je pense qu'il ne faut pas se fier, c'est une illusion de croire qu'on peut financer la transition écologique à moindre coût. Je pense qu'elle sera très coûteuse, et donc les ménages les plus modestes seront les premiers à souffrir, et ça, l'Église le dit de façon permanente. Et c'est pour cela que si jamais on en vient, par exemple, à instituer ou à instaurer une taxe carbone pour réorienter les consommations des ménages vers des consommations moins carbonées, il faut impérativement se soucier des ménages les plus modestes en compensant l'effort qu'ils devront également faire.
Est-ce que l'Église est plutôt pro-décroissance ou plutôt pro-technologie ?
Alors, là-dessus, le pape François, dans son encyclique Laudato Si, à un moment donné, a une phrase un peu raccourcie, je trouve, où il dit « il faut arrêter la croissance dans l'hémisphère nord et au contraire permettre de la croissance dans l'hémisphère sud ». Sauf que, vous le savez comme moi, la croissance, ça se décrète pas, et surtout pas dans une économie mondialisée. Donc je pense que ça, c'était un raccourci, c'était pas forcément la partie la plus intéressante de l'encyclique. Moi, je serais partisan d'une décroissance sélective dans les secteurs qui sont les plus émetteurs de gaz à effet de serre. Qu'on continue à croître quand ça ne modifie pas, j'irais, les émissions de gaz à effet de serre, et que on décroisse dans les secteurs les plus gris, les plus noirs.
Merci beaucoup à tous les deux. Frédéric Lobet, je rappelle votre livre « Credo et crédit, la pensée sociale catholique et la finance », c'est aux éditions Les Belles Lettres. Et puis Gaël Giraud avec sa somme composée « Un monde en commun » aux éditions du Seuil. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'émission.
BFM Business, la librairie de l'écho, Emmanuel Lechypre.
On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturons comme de coutume avec nos chroniqueurs Benaouda Abdelhaim pour ses études glanées dans le monde entier. Alexandra Paget, notre bibliothécaire pour un des livres majeurs d'Émile Zola, vous verrez. Mais tout de suite, on retrouve nos critiques attitrés. À ma gauche, Christian Chavagneux, éditorialiste et critique à Alternatives Économiques. Et à ma droite, Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l'ESCP Business School, critique attitré et président maintenant de la Société d'économie politique. On commence avec un livre événement. On peut appeler ce livre un livre événement. C'est le livre de Pascal Saint-Amand aux éditions du Seuil. Paradis fiscaux, comment on a changé le cours de l'histoire? C'est le choix de Christian Chavagneux.
J'en parle d'autant plus volontiers que j'ai été éditeur au sens anglo-saxon du terme pour les éditions du Seuil, et pas de conflit d'intérêt parce que je ne touche absolument aucun pourcentage sur les ventes. Faut rappeler qui est Pascal Saint-Amand, hein. C'est un énarque fonctionnaire qui travaille à Bercy, qui s'ennuie, il faut le dire. il va faire, ma journée c'était faire descendre les piles de gauche pour faire monter les piles de droite, une fois que c'était signé et traité. Il va faire un tour à l'OCDE parce qu'il est civil, quoi. Il va rencontrer les gens qui s'occupent de la fiscalité. Il dit surtout jamais travailler dans cette institution. C'est un vieux machin complètement endormi. J'irai jamais. Et en fait, il va passer 15 ans à être le diplomate en chef qui va mener la guerre contre les paradis fiscaux. Alors, comment on a changé le cours de l'histoire? Pascal Saint-Amand est persuadé qu'avec ce qu'il a fait, demain, il n'y aura plus de paradis fiscaux. Alors, on peut être d'accord ou pas être d'accord avec sa conclusion, mais en tout cas, le livre est le récit de 15 ans de diplomatie économique internationale qui sont absolument fabuleux pour faire quoi? Pour obliger les personnes les plus aisées qui essayent d'échapper aux impôts à payer leur juste part d'impôts. Ça, c'est ce qu'on appelle l'échange automatique d'informations fiscales. Dès que vous sortez de votre pays, vous ouvrez un compte en banque, faites n'importe quelle opération financière, votre fisc est mis au courant. Et puis, lutter contre les pratiques d'évitement fiscal des grandes multinationales au niveau mondial, avec l'accord historique d'octobre 2021. Et donc Pascal Saint-Amans va raconter à la fois les aspects techniques, montrer pourquoi ce qu'il met en place sur le plan juridique, économique, mais aussi il nous donne tout le contexte diplomatique, comment avec il doit toujours garder autour de la table les États-Unis, les Européens, les pays émergents, les pays pauvres, comment les grandes multinationales vont essayer, les lobbies des multinationales vont essayer de lutter partout dans le monde pour l'empêcher d'avancer, comment il va jouer des ONG, des fuites dans la presse, des fameux leaks dans la presse pour faire monter la pression. Tout ça, moi je trouve assez bien écrit, avec plein d'anecdotes. À un moment donné, il nous dit, j'arrive au Guatemala pour parler avec les gens, les représentants politiques du Guatemala, j'ai deux Malabar qui m'inquiètent dans une voiture toute noire, je monte dedans, tout d'un coup on arrive devant un bâtiment, ils ouvrent une porte, c'est un couloir mal éclairé, il dit où est-ce que je suis arrivé. En fait il a le vice-président qui lui dit, mais allez loin, tapez-nous dessus, parce qu'il y a plein de familles riches qui volent nos impôts, donc allez plus loin, dites-nous qu'on n'est pas conforme, qu'il faut aller le plus loin possible. Il a aussi, pour ce qui concerne l'échange automatique d'informations fiscales, il est prêt à annoncer une grande résolution. Il est à Jakarta, il arrive vers 11h minuit, il pense qu'il va dire bonjour à tout le monde, aller se coucher demain. Et là, ses équipes lui disent, tout est bloqué. Comment ça, tout est bloqué? On avait tout préparé, mais tout est bloqué entre la Chine et un représentant des pays nordiques. Et là, il comprend pas. Jusqu'à 2h du mat, il est là, il comprend pas. Donc il dit, on fait une pause. Et il croise la déléguée de Hong Kong, il dit, qu'est-ce qui se passe? Elle lui dit, prix Nobel. Et elle s'en va. Et là, il dit, j'ai compris. Le prix Nobel de la paix venait d'être donné à un opposant à la Chine. La Chine, en rétorsion, menaçait les pays d'Europe du Nord. Ouais. Et le délégué qui représentait 5 pays d'Europe du Nord, en rétorsion, a dit « Hong Kong n'est pas conforme ». Et les Chinois ont dit « Si vous dites qu'Hong Kong n'est pas conforme, nous, on quitte la négociation et on s'en va ». Donc là, voilà, il nous raconte toutes ces petites anecdotes sur comment, finalement, on doit arriver à mener une diplomatie internationale. Il fait quand même une révélation. Il nous dit « Quand l'OCDE a calculé la somme des impôts évités par les multinationales avec leur comportement d'optimisation fiscale agressive, c'était 500 milliards de perdus, 20% de l'IS. Et là, tous les pays ont dit, oh, c'est trop, ça fait trop, faut que tu changes tes hypothèses. Ah ouais. Et du coup, on est aujourd'hui à l'hypothèse de, on perd 10% de l'impôt sur les sociétés. Plein d'anecdotes, une dernière, parce que vraiment, je la trouve géniale. Ils vont, à un moment donné, il y a une pause, tout le monde se jette à l'eau, la déléguée chinoise est proche de se noyer. Il se trouve que Saint-Amans est un surfeur, bon nageur. Il va la sauver, elle lui dit, écoutez, si un jour vous avez besoin de moi, un jour, une négociation, va falloir débloquer. Et la personne qui est en face de lui, elle dit, appelle ta chef. Et la chef, c'est cette personne qui l'a sauvé. À quoi tient le déblocage d'une négociation? Belle leçon de diplomatie économique internationale, technique, à la fois un récit haletant, j'ai adoré.
Bon, Jean-Marc Daniel.
Non, sur la forme, je rejoins ce que vient de dire Christian. C'est très bien écrit, c'est des paragraphes assez courts, des chapitres très courts, avec une description en entrée, et j'ai trouvé ce livre alarmant. Parce que ce personnage qui, effectivement, au début, il nous raconte qu'il est narque, qu'il s'ennuie à Bercy, qu'il va aller à l'OCDE, qu'il est un endroit vieillissant, qui ne sert pas à grand-chose. Et donc là, il va utiliser, à mon avis, l'OCDE pour régler des comptes personnels, c'est-à-dire pour mener un combat politique dans lequel il a échoué, d'ailleurs, à titre personnel, puisqu'il raconte qu'il a été candidat du Parti Socialiste dans l'Allier et qu'il a été battu. Et à un moment donné, il dit deux choses que je trouve intéressantes. La première, c'est qu'il dit... On avait l'administration Bush aux États-Unis, on n'arriverait à rien. On attendait l'élection des démocrates. Il donne l'impression que l'OCDE réagit, développe ses dossiers en fonction des tendances politiques des États-Unis. Et donc lui, il est d'une certaine façon, au sein de l'OCDE, le porte-parole de l'aile gauche du Parti démocrate américain. Oula, c'est absolument saisissant. Quoi. Non, pas du tout, parce qu'il dit, j'attends l'arrivée des démocrates, j'attends Obama. Et effectivement, alors après, sur les pays qu'il accueille, mais il dit aussi que le Kenya, le Pakistan disent, mais vous allez nous ruiner. Si on ne peut pas faire venir les gens en faisant de la compétitivité fiscale, on ne pourra jamais se développer. Et donc, effectivement, il obéit à un réflexe qui est purement idéologique. Il dit aussi qu'il va voir l'équipe de Cash Investigation en leur disant, je vais vous expliquer ce qu'il faut que vous racontiez. Un fonctionnaire qui utilise Cash Investigation, utilise
c'est
les médias...
Il y a un détournement du récit.
Non, il ne raconte pas qu'il va voir Cash Investigation.
Si, à la demande de Cash Investigation. Pas, il ne va pas voir Cash Investigation.
Il va les voir. C'est pas vrai. Qu'il les mobilise.
La question, c'est en quoi est-ce que finalement il obéit à des injonctions de ses supérieurs en disant notre ambition c'est ça, parce que ce que vous sous-entendez, c'est que finalement c'est lui qui décide seul de partir en guerre.
C'est le G20 qui lui a demandé.
Oui, voilà.
Non, pas du tout, parce qu'au sein du G20 il y a des gens qui sont contre. Il dit d'ailleurs dans le mécanisme qu'il appelle le mécanisme BEPS, il nous explique ce que c'est. Ça, c'est la partie, à mon avis, la plus objective et la plus intéressante. Il dit bien qu'il va s'appuyer sur un certain nombre de gens pour lutter contre d'autres personnes. Il va avoir 137 pays qui vont le soutenir, mais pas tous les pays. Et ce que je trouve encore une fois alarmant, c'est l'utilisation de cette bureaucratie internationale pour faire passer un message implicite dans lequel il n'arrête pas de dire que l'État utilise mieux l'argent que les gens du secteur privé. Tout ça est très inquiétant. La seule chose que je trouve dans toutes les anecdotes dont on n'a pas parlé Christian et qui me paraît assez délicieuse, je ne comprends pas pourquoi il n'a pas parlé, c'est qu'il a évidemment reçu l'institution des œuvres religieuses, l'IOR du Vatican, et il y a une scène avec, et donc c'est très à la mode en ce moment. Donc tout livre qui se respecte maintenant a deux ou trois pages sur les caves du Vatican.
Bon, formidable. Allez, on passe à votre choix rapidement. Jean-Marc Daniel, vous, c'est le livre de Jean Perlevade. Oui. Réformer la France chez Odile Jacob. Qu'est-ce qu'il nous raconte, Jean Perlevade ?
Alors lui aussi, il décrit un combat politique, mais il avance de façon franche et sincère. Il raconte effectivement ses idées, ses opinions, et il n'utilise pas des technostructures et des bureaucraties pour les faire passer. Le livre est en trois parties. En fait, la première et la troisième partie reprennent plus ou moins des idées qu'il a déjà exprimées, notamment dans l'histoire du névrose française, qui est le fait que les Français ne savent pas réformer. Et donc, il y a en particulier un passage assez sévère sur la Troisième République, dont il explique parce qu'elle considérait qu'elle était anticléricale, elle devait être considérée comme étant progressiste, alors qu'elle était fondamentalement conservatrice, notamment protectionniste. Et puis il y a la partie centrale où il raconte son passage à Matignon, parce qu'il faut rappeler que Jean Perlevade,
il est à Matignon,
il est le directeur adjoint de cabinet de Pierre Mauroy entre 81 et 83, d'accord. Et après il va devenir banquier, il va faire une carrière dans le monde bancaire, et il est un des hommes clés du passage de la relance et
dans un premier temps
et des embardés
et du tournant de la rigueur
à la rigueur. Et donc il explique comment effectivement Pierre Mauroy, dont il fait un portrait à la fois très laudateur et très attachant sur le plan personnel, comment Pierre Mauroy a bataillé pour essayer de faire passer la réforme sans sombrer dans une espèce de gauchisme mondain totalement irresponsable, qui s'incarnait par des personnes très diverses. Alors il met en avant évidemment Jean-Pierre Chevènement, dont il est assez... Mais il dit aussi que Attali et Fabius étaient sur des lignes absolument invraisemblables, que Rocard en comprenait pas la moitié de ce qu'il disait, mais quand on arrivait à comprendre ce qu'il disait, on s'apercevait qu'il n'était pas forcément dans le camp des gens totalement responsable. Et ce qu'il montre bien, c'est que on est passé à deux doigts, effectivement, du travaillisme des années 70, du FMI, de la, et que ça a tenu à très peu de choses. Et ce que je trouve de passionnant et de saisissant dans ce livre, c'est de voir comment, effectivement, des gens se laissent aller par une espèce de frénésie sectaire à faire des choses dont ils finissent par la suite, je pense donc à Attali, à Rocard, à Fabius, à ces gens-là, dont ils finissent par la suite par dire que c'était totalement irraisonné ce qu'ils faisaient. C'est un livre que j'ai trouvé passionnant, et en plus il parle sans embâche, hein. Les gens qu'il a dans le nez, ils n'hésitent pas à affirmer qu'ils n'ont pas été à la hauteur.
Christian !
Jean Perlevade, c'est quelqu'un qui a une carrière absolument extraordinaire, dans le public, dans le privé, conseiller de Premier ministre, directeur de banque, il a remonté le Crédit Lyonnais. J'ai eu le privilège de pouvoir l'interviewer pendant une heure au rendez-vous de l'histoire, c'est quelqu'un de très intelligent, hyper compétent, hyper, hyper intelligent. Quand j'ai terminé le livre, j'ai dit, quel gâchis. Ça a été mon premier... Quel gâchis. La partie historique sur la Troisième République, les fidèles auditeurs se rappelleront qu'avec Jean-Marc, on a parlé d'un bouquin sur l'affaire Jules Durand. Petit syndicaliste tout gentil qui simplement essaye des petites revendications. Le patronat le fait accuser à tort d'avoir tué quelqu'un. Il meurt fou dans un asile psychiatrique. La réalité des combats, de la lutte sociale au moment de la Troisième République, c'est ça. C'est pas les petits machins. Il faut de l'équilibre budgétaire. Et puis surtout, monsieur le patron, est-ce que vous voulez bien que j'ai un petit peu quelque chose, moi salarié, c'est ça la réalité des luttes sociales. Or, Jean Perlevade, dans cette partie historique, nous parle des idées des intellectuels de la Troisième République, pas de la réalité des luttes sociales. Quant après, là, vraiment, c'est la partie qui m'a le plus déçu, en fait. Parce que, comme l'a dit Jean-Marc, Jean Perlevade insulte la Terre entière, enfin plutôt la partie gauche de la Terre entière. Et pourquoi ? Parce qu'il détient la vérité économique. Et tous ceux qui ne pensent pas comme lui, et moi, j'aime pas ces livres pamphlétaires, tous les gens qui ne pensent pas comme Jean Perlevade sont des incultes, des idiots, des nuls en économie. C'est répété page après page. Par exemple, un déficit budgétaire à 3% du PIB, c'est un déficit lourdement déficitaire, une situation lourdement déficitaire. Lionel Jospin, il termine avec une dette publique à 60% du PIB. C'est bien la preuve de laxisme, 60% du PIB. 60% du PIB, c'est la preuve d'un laxisme, 3% de déficit budgétaire. Enfin, franchement, qu'est-ce que c'est que ces arguments qui sont mis sur la table? Je pourrais vous en donner des tonnes. Les nationalisations, il nous dit, j'avais prévenu Pierre Mauroy, les nationalisations à 100%, ça va créer un cataclysme. À la page d'après, il nous dit, bah, finalement, ça n'a rien créé. Grosse erreur. Pourtant, il pourrait. Rappelons-nous que Jean-Pierre Levat, c'est quelqu'un qui, au milieu des années 70, écrit un bouquin pour nous dire que le dollar est mort et que la domination du dollar. Quand on se trompe à ce point sur ces choses aussi structurelles, on un petit peu, quand même, juste un petit peu de modestie. Il n'y a pas de modestie. Jean-Pierre Levat détient la vérité économique sur les 35 heures. On se croirait dans le livre d'Anne de Guigné. C'est un homme de conviction, j'aurais voulu qu'il m'explique ses convictions. Or, il les assène en disant qu'il détient la vérité. Franchement, toute cette compétence, tout ça, pour toute cette intelligence au service de si peu, quelle déception.
Bon, deux choix qui vous ont bien clivé aujourd'hui, messieurs, avec quand même un point commun entre les deux hommes, Pascal Saint-Amand et Jean-Pierre Levat, c'est-à-dire que l'un comme l'autre, disent avoir infléchi la trajectoire de nos économies, finalement, à un moment
exactement,
important
oui.
de nos histoires.
Il y en a dans un sens positif et l'autre dans un sens que je conteste.
Eh ben, Christian pourrait reprendre cette phrase.
D'accord. Je pense qu'effectivement, je pense que Christian peut récupérer
là-dessus,
la même formule.
Là-dessus, vous êtes d'accord. Allez, on reste, en parlant d'histoire, on reste dans l'histoire. On retrouve Alexandra Paget, notre bibliothécaire du jour.
BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres d'hier et de demain.
Bonjour Alexandra Paget.
Bonjour Emmanuel.
Alexandra, journaliste à la rédaction de BFM Business et notre bibliothécaire du jour. Alexandra, vous avez choisi de nous parler de l'argent d'Émile Zola. Pour quelle raison ?
Parce que ce sont les 150 ans du crash boursier de 1873. Et c'est justement ce crash que Zola met en scène dans ce roman qui lui est paru en 1891.
Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce roman ? Que nous raconte Émile Zola ?
Alors, je vous précise que c'est le 18e tome de la série des Rougon-Macquart, vous savez, la fameuse. Et dans ce roman, Zola décrit, mais par le menu, le mécanisme de la spéculation financière à partir d'un fait historique donc reconnu, ouais. C'est-à-dire ce fameux crash qui a eu lieu dans les années 1878, entre 1878 et 1882. Le crash de l'Union Générale, ça s'appelait, c'était une banque catholique appuyée par les conservateurs. Alors cette banque, elle a connu une faillite retentissante sur toutes les places financières européennes. Dans l'argent, l'Union Générale, ça devient la Banque Universelle. Mmh. Et la Banque Universelle, elle est créée par le héros Aristide Saccard. Et ce Saccard, c'est un sacré roulard. Parce qu'en fait, il sort en fait d'une faillite, ouais. Tout bêtement, il s'est planté. Et pour se refaire, il décide de vendre tous ses biens, donc sur un grand hôtel particulier de la Plaine Monceau, ce qu'on appelle la Plaine Monceau à l'époque. Il loue deux étages dans un hôtel particulier dans Paris, et là, il y installe sa banque universelle. Et cette fameuse banque universelle, elle est basée sur un principe, c'est-à-dire que on attire les petits et les moyens actionnaires, les épargnants, en leur promettant des gains rapides et faciles. Alors évidemment, avec des informations donc savamment distillées, des rumeurs, etc., ce qui fait que du coup, ça fait monter le cours de sa société, sauf qu'en fait, c'est complètement fictif. Et de là, il revient ce Saccard en haut de la pyramide, il récupère le pouvoir, la puissance, sauf que c'est bâti sur du sable, parce qu'en plus, c'est lui qui rachète ses propres actions. Alors à partir de là, évidemment, il y a une série de faillites, de suicides, des gens qui sont ruinés. Tout ça est décrit avec un luxe... Grandeur et décadence. Tout ça est décrit avec un grand luxe de détails, justement, par Zola. Et pour terminer, au passage, Émile Zola souligne aussi que ses aventures financières désastreuses demeurent tout de même des investissements extraordinaires, parce que c'est à partir de là, même de ces crashs, qu'on a obtenu des avancées techniques incroyables. Et à l'époque, c'est les chemins de fer, c'est les villes et les voies nouvelles, c'est l'assainissement de régions entières comme les Landes ou l'ouverture de pays arriérés à la civilisation.
Voilà.
C'est QFD.
Vous connaissiez Kindleberger sur les bulles. Vous connaissiez Christian Chavagneux, dont un des plus grands livres, c'est effectivement l'histoire des spéculations. Ben voilà, vous avez la version littéraire dans la grande tradition française, celle d'Émile Zola. Merci beaucoup, Alexandra Paget. Allez, on retrouve notre Globetrotter. C'est l'heure de notre tour du monde hebdomadaire.
BFM Business, La librairie de l'écho. Les livres d'ailleurs.
Bonjour Benaouda Abdelhaïm.
Bonjour.
Allez Benaouda, on commence notre tour du monde avec cette méthode du drapeau rouge pour les publications falsifiées en sciences biomédicales. De quoi s'agit-il ?
Alors, vous avez peut-être vu que c'était il y a quelques jours, on a appris que la Chine a dépassé les États-Unis en tant que plus gros producteur, plus contributeur aux revues de recherche, aux revues académiques de haute qualité dans les domaines de la chimie, de la physique, des sciences de la Terre, de l'environnement. Les États-Unis ne sont plus en fait devant que dans une seule discipline. Les sciences de la vie. C'est un indice de référence qui croise 82 publications. Alors, voici pour les quantités. Quant au contenu, il y a là de sérieuses questions à se poser maintenant, particulièrement dans les sciences biomédicales. 4 universitaires allemands posent ici un constat grave, voire très grave. Un article de recherche sur 5 publié dans cette discipline, dans le monde, peut contenir des données falsifiées sorties, en fait, par des fabriques à études.
Ah bon ?
Bernard Sabel et ses collègues ont eu recours à une nouvelle technique qui est assez simple, c'est une méthode de drapeau rouge pour établir le nombre drapeau rouge qui ne signifie pas automatiquement fraude, il faut bien le souligner. Alors, exemple de ces signaux d'alarme, ces drapeaux rouges, une affiliation d'un des auteurs inscrite à un hôpital et non à un centre, à un CHU, à un centre hospitalo universitaire, ou bien autre drapeau rouge, un défaut de coopération attesté en dehors du pays, donc se faire relire en dehors de son pays. Il y a un tas de drapeaux rouges de ce type.
D'accord.
Alors, les proportions semblent plus importantes à mesure que les volumes mondiaux de publications, de production, de littérature augmentent. En médecine, en 2010, 19% de falsifications potentielles.
Wow.
10 ans après, c'est 5 points de plus, donc on est à un quart. Et si on prend les neurosciences, c'est encore bien plus grave. Sur la période, on passe de 13% à 33%, donc on est à 20 points de plus. Ceci dit, il faut retraiter l'ensemble des paramètres. Alors, il faut voir que dans la répartition mondiale de ces publications potentiellement, je dis bien potentiellement truquées, la Chine représenterait 55% du total. Les États-Unis, l'Inde et l'Europe sont à peu près au même niveau, 6-7%. Mm-hmm. Conclusion des auteurs, nous avons besoin, disent-ils, d'un système avancé pour vérifier l'intégrité scientifique indépendamment des éditeurs académiques.
Eh bien, dites donc, ça fait froid dans le dos. Les données, Benaouda, quand il n'y en a pas assez pour prendre des décisions, c'est un problème. Mais quand il y en a trop, c'est un problème aussi.
Parfait résumé. Un dilemme de la décision évalué à travers 17 pays pour le compte d'Oracle. Oracle, qui est un spécialiste américain, entre autres, de la gestion de bases de données. C'est la direction de cette recherche a été confiée à Seth Stevens Davidovitz, qui est un économiste et scientifique américain des data, des données, qui est passé, entre autres, par Google. Alors, nous avons consulté plus spécifiquement la version espagnole, mais l'interrogation essentielle porte en fait partout sur un excès qui nuit à l'action. 86% des personnes interrogées considèrent que plus de données les rend moins certaines au moment de prendre une décision dans l'entreprise. 85% des chefs d'entreprise dans cette étude considèrent alors vivre un stress décisionnel. Ils sont même 91% à considérer que les volumes croissants entravent le succès de leur entreprise. Si l'on prend le cas de l'Espagne. Pratiquement les trois quarts des Espagnols interrogés affirment que le nombre de décisions qu'ils prennent quotidiennement a été multiplié par 10 en seulement 3 ans. C'est une impression d'écrasement par la data, par les données. Dans l'échantillon espagnol, plus des deux tiers des chefs d'entreprise estiment que la plupart des données disponibles ne sont réellement utiles qu'aux professionnels de la profession, c'est-à-dire des informaticiens ou des data scientists, des scientifiques de la data. La complexité croissante de la perception des paramètres est devenue telle que pour les Espagnols, dirigeants comme salariés, sont 40-45% à préférer que l'ensemble de ces difficultés disparaissent. Comment ? En confiant la décision à quelqu'un d'autre, c'est-à-dire à l'intelligence artificielle, ce qui forcément va ouvrir d'autres
évidemment.
Dilemmes.
Évidemment.
Si vous ne décidez pas vous, quelqu'un d'autre décidera pour vous.
Eh oui, quelqu'un qui a la capacité de calcul. Enfin, l'étude au titre énigmatique de la semaine s'appelle « Le télétravail et le risque d'inconduite en matière de valeur mobilière », Benaouda.
Toujours dans cette série des découvertes insoupçonnées autour du télétravail. Alors, ce sont 4 économistes qui ont examiné les rapports d'inconduite en termes de mauvaise gestion de leur travail dans une grande banque britannique. Douglas Cumming et ses co-auteurs ont pu avoir accès précisément aux informations internes liées à l'activité des traders de valeurs immobilières, c'est-à-dire actions, obligations, etc., d'une banque britannique. Ils ont passé, et une des plus grandes, ils ont passé en revue l'activité de 162 de ces professionnels durant les périodes de confinement entre mars 2020 et mars 2021.
Ouais.
Alors, lorsqu'ils étaient dans leur salle de marché, comme jadis, la probabilité qu'ils aient eu une alerte pour faute était globalement de 37,6%. Avec les mêmes personnes en train de travailler à domicile, le taux descend à 7,3%. Donc, ouais, il y a un écart de 30 points. Autrement dit, ces salariés de manque d'investissement se comportent mieux, entre guillemets, chez eux qu'à leur bureau. En tout cas, ils se tiennent physiquement davantage à distance de la rumeur, du risque de délit d'initié, susceptible de fausser le fonctionnement du marché. Alors, moins de violations des règles dans le traitement des valeurs mobilières, toutes celles qui sont codifiées et surveillées par des systèmes informatiques, cela a des implications financières et économiques. Les auteurs avancent une explication tout à fait centrale. Une conduite en contravention avec l'éthique se répand plus facilement lorsqu'ils sont les uns au contact des autres. En s'appuyant sur des travaux de psychologie qui datent de 2009 et de 2019, les auteurs écrivent ceci. Les individus se sentent moins coupables ou bien considèrent que la conduite contraire à l'éthique pose moins de problèmes ou du moins rationalise la conduite contraire à l'éthique lorsqu'ils voient d'autres personnes à côté d'eux agir de la sorte. Fin de citation. Donc, comme pour réduire un phénomène de contagion comme une maladie, comme la Covid, ouais, c'est la distance physique qui diminue le risque, ce qui suggère alors d'autres réflexions sur l'organisation du travail dans l'ensemble des entreprises dans cette période post-Covid.
C'est bien vous qui nous aviez dit il y a quelques émissions que finalement les grands gagnants du télétravail c'était les clubs de golf. Donc finalement on se dit que pour les banques l'idéal c'est que leurs salariés aillent jouer au golf et télétravaillent comme vous nous l'aviez expliqué depuis les clubs de golf.
Voilà, que les traders aillent travailler.
Tout le monde y gagne en fait. Exactement. Voilà, les traders dans les clubhouse et tout le monde gagnera mieux sa vie. Eh ben écoutez, c'est formidable. Pourquoi pas, en réalisant l'argent de Zola et en réalisant qu'effectivement, bah, plus on est isolé, moins on est soumis aussi à l'excès de données et d'informations. Mais tout se boucle en économie, mesdames et messieurs. Voilà, merci beaucoup Benaouda Abdelhaïm. Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix.
BFM Business, la librairie de l'écho, les livres de la dernière minute.
Christian Chavagneux, quelle est votre dernière sélection pour aujourd'hui?
Une petite étude en anglais, mais qui est vraiment fabuleuse, petite étude statistique. Est-ce que la sécheresse provoque des révoltes sociales? C'est malheureusement de l'actualité en France. On sait que nos grands historiens, Emmanuel Leroy, ouais, Ladurie et d'autres, ont dit la sécheresse de 1788 a été l'un des facteurs, ouais, de la révolution de 1789. Là, on a une étude statistique qui nous permet... On sait en fait, en 1788, quelles étaient les augmentations de température ou pas. Et donc, des augmentations de température de 3% d'un côté, de 15% de l'autre. Est-ce que là où il y a eu plus de sécheresse, il y a eu plus de révolte sociale? Oui, nous dit l'étude. Plein de statistiques, c'est absolument fabuleux.
Voilà, la sécheresse est l'ennemi de la paix sociale. Jean-Marc Daniel,
oui,
votre dernier
aussi,
choix.
Un livre d'histoire, le dernier livre de Sylvain Bersinger, donc qui nous a donné notamment des livres sur les patrons, vous vous souvenez, ouais, des livres...
Entrepreneurs de légende.
Voilà, absolument, des livres toujours très agréables à lire, et cette fois-ci c'est sur John Law, ça s'appelle La Monnaie Magique, c'est chez un éditeur assez peu connu, enfin de moi, qui s'appelle Complicité, et donc il raconte l'histoire de John Law, mais de façon romancée, il y a des dialogues, il décrit des personnages, tous les gens qui sont dans son livre ont existé, tous les événements ont eu lieu, mais il nous les présente comme un peu un roman, donc c'est passionnant.
Parfait, et moi je termine avec un petit clin d'œil à un nouveau magazine, Les Déviations, ça s'appelle Changer de vie, changer la vie. C'est un magazine qui est né d'une idée simple, raconter des histoires de gens qui ont changé de vie. Alors j'ai trouvé un sondage Opinionway, songez qu'il y a quand même 79% des Français qui aimeraient aujourd'hui changer de vie, 37 millions de personnes, ça fait quand même un potentiel de lecteurs assez considérable. Voilà, de belles histoires inspirantes dans un numéro consacré au travail manuel et si on retravaillait de nos mains. C'est le deuxième numéro, il vient de sortir. Ça coûte 7,90€. Donc, comme de coutume, hein, c'est la tradition. Longue vie à nos amis des Déviations. Voilà, c'est la fin de cette librairie de l'écho. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, bonne lecture.